22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 22h pétante, c'est l'heure de Time Sport, et oui, votre émission sportive, chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, 22h, 23h, au menu de cette émission ce jeudi soir, 28 avril 2022. On parlera de quoi ? Il y a pas mal de choses à dire ce soir sur l'antenne de Beurre FM avec toute l'équipe, justement. On reviendra sur un pied en finale pour les Reds de Liverpool de Jurgen Klopp qui est justement à remplir pour un nouveau contrat avec son équipe jusqu'en 2026. Marseille qui défie le Feyenoord de Rotterdam, justement. On reviendra sur ce match qui est en fil rouge de cette émission, sans oublier aussi l'affaire Belmadi qui prend encore une fois de l'ampleur. On aura comme invité ce soir pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM François Niam, ancien basketteur et agent de joueur, aussi consultant chez nos confrères de Canal Plus Afrique. Et oui, on va parler, c'est promis, du parquet nord-américain ou encore français à l'approche des JO 2024 à Paris et dans toute la France. Et ben voilà, c'est un magnifique invité qui fera plaisir à toute la communauté basketball en France. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Et aussi nos fervents supporters de la Ligue nord-américaine qui sont, allez, on va penser à Vivien, à Yanis ou encore Fred. N'oubliez pas le numéro du standard. On essaye de vous faire, allez, on vous fait même remporter ce soir de magnifiques ouvrages. Voilà, c'est Désarmer la violence aux éditions Solar. Voilà, c'est un manuel de défense à l'usage justement des anti-héros. Allez, c'est parti, on va commencer cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Jason.
Time Sport. Bonsoir à tous, c'est parti pour les infos de ce jeudi avec une nouvelle qui a bouleversé le monde du football, ou du moins qui aurait pu bouleverser le monde du football aujourd'hui, c'est l'annonce du faux décès de Mino Raiola. La presse italienne a dans un premier temps affirmé que le célèbre agent de footballeur s'était éteint cet après-midi d'une maladie des poumons avant que cela ne soit contredit directement par son entourage et lui-même sur son compte Twitter. L'italo-néerlandais serait bien dans un état critique mais bel et bien en vie. Une autre grosse nouvelle, c'est signé Mauricio Pochettino cette fois qui annonce en conférence de presse ce jeudi qu'il existe 100% de chances de le voir continuer au Paris Saint-Germain, tout comme Kylian Mbappé. Et oui, vous avez bien entendu, le coach argentin est ultra optimiste sur son avenir et celui de sa star française. On termine avec un mot sur les Français aussi, en tennis cette fois, Richard Gasquet d'abord, qui bat Hugo Delien à Estoril en 2-7 et file en quart de finale. De son côté, Alizé Cornet chez les femmes s'incline dans le tournoi de Madrid en 3-7 face à la Russe Varvara Grasheva dès le premier tour. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Et voilà, avec moi ce soir pour m'accompagner durant une heure, on aura notre consultante Sarah. Comment ça va, Sarah ?
Ça va très bien, et toi, Bilal ?
Ça va très très bien, nous attendons Boula. Vivien est avec nous ce soir, comment ça va, Vivien ?
Bah, ça va, Bilal, bonsoir à tous nos auditeurs.
Eh oui, Abdel, et il pleure un peu, Abdel, là. L'OM est en train de perdre, c'est ça, Abdel ? Eh oui, il me montre et me dit non. Alors, Abdel, comment ça va ce soir ?
Ça va, Bilal, très très bien.
Oui, très très bien, ouais. Oui, ah ben justement, 2-2, oui. Mais ben bon, moi j'étais un peu en retard, hein. Désolé Sarah, justement, 2-2 partout. Ouais, grand supporter, eh oui, de tous nos clubs français, encore en lice, il n'y a que Marseille, je crois. Va savoir. Allez, on s'attarde sur le premier sujet de cette émission.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Vivien, ça t'a fait plaisir, eh oui, Liverpool face à Villarreal, moins plaisir peut-être à Juan José Dorado, à qui nous pensons ce soir, un but contre son camp. Et aussi un but de Sadio Mané à la 55e en seconde période. Alors, justement, Abdel, ils sont bien placés. Ils iront peut-être, c'est Reds.
Ouais, hier, on va dire que ça a été un peu un match à sens unique. Jurgen Klopp et Liverpool maîtrisent très très bien leur sujet. Cette année, ils font une saison encore exceptionnelle. Ils ont déjà remporté une coupe, ils sont en finale de l'autre, à la lutte pour gagner le championnat et déjà un pied en finale. Ça a été vraiment un match très très intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait une question qui était posée sur les réseaux sociaux,
ouais,
de Time Sport qui
justement
m'a
fait, assez victoire de Liverpool, ouais. Unai Emery et Villarreal sous le feu de critiques pour le jeu proposé face aux Reds. À tort ou à raison selon vous, cher auditeur? Pour toi, Abdel?
Moi, je dirais à tort parce que je pense qu'à un moment donné dans le football, ça arrive qu'il y ait une équipe qui soit plus forte que l'autre, tout simplement. On peut pas à chaque fois rivaliser quand, ouais, on sait que déjà Unai Emery a fait de très belles choses avec cette équipe jusqu'à éliminer le Bayern Munich. Et voilà, je pense que hier ils ont été tout simplement asphyxiés et il y a eu aucune solution qui a réussi à être trouvée par le coach. Donc voilà, à un moment donné, s'il y a plus fort, et ben faut le dire. Et je trouve que ça, c'est à cause du nouvel ère sur les, j'ai pas peur de le dire, sur les, ouais, sur les réseaux sociaux, où tout le monde idéalise le beau jeu, croit que c'est facile à travers des palettes et de faire des montages vidéo, de dire que fallait faire une ressortie de balle comme ça ou autre. Et il faudra inviter ces personnes qui pensent qu'à travers des palettes ou quoi, c'est facile. On devrait les mettre sur un terrain pour qu'ils puissent nous montrer ce qu'ils savent faire justement en coachant plutôt que de manier des boutons. Et voilà,
ça m'a... À qui tu penses en disant ça?
Moi, je pense à pas mal de personnes qui, font, qui se prennent pour des tacticiens.
Tu peux tout dire.
Non, qui se prennent pour des tacticiens du net et qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain.
Après,
il
voilà,
y a des joueurs qui ont été très en forme du côté de Liverpool, notamment Thiago Alcantara qui finit homme du match, qui est vraiment une pierre angulaire du collectif. Donc voilà.
Sarah, on t'écoute. Alors justement, on enchaîne avec toi. Liverpool face aux Espagnols.
Moi, je pense que on en attendait beaucoup de Villarreal, parce que comme, comme Abdel l'a dit, pardon, c'est une équipe quand même qui a sorti le Bayern, qui a sorti la Juve. Donc on en attendait beaucoup. C'est une équipe qui faisait peur, je dirais pas ça, mais en tout cas, enfin voilà, fallait s'en méfier. Maintenant, Liverpool a été clairement au-dessus. On a vu les limites de Villarreal, malheureusement. Après, le foot est fait surprise. On sait pas ce qui peut se passer au retour, même si de toute évidence, j'y crois très moyenne. Ouais, mais bon.
Ouais.
J'y crois pas vraiment. Je pense qu'à 90%, on n'y croit pas trop. Mais voilà, Liverpool, c'est une équipe qui est juste exceptionnelle, qui sait s'adapter à tous les styles de jeu, plus ou moins. Villarreal, c'est une équipe qui défend relativement bas. Enfin, c'est voilà. Mais on a vu que voilà, c'est Liverpool, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire.
Alors, Vivien, on poursuit avec toi. On va donner la parole aussi à Boula.
En fait, le problème pour tous les passionnés, c'est que une première soirée avec un Manchester City Real Madrid exceptionnel, deux équipes qui ont ouvert le jeu jusqu'au bout, il y a un 4-3. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a l'air un petit peu déçu parce que peut-être qu'on s'attendait à un match aussi spectaculaire le lendemain. Ben, je suis assez d'accord avec Abdel et Sarah. Enfin, on a un Villarreal. Alors, si on repense au match au quart de finale aller contre le Bayern Munich, où là effectivement ils ont su ressortir, se procurer beaucoup d'occasions. On pouvait peut-être espérer un peu mieux, mais.
Mais juste si je peux me permettre, en fait j'ai l'impression que Villarreal a joué comme au match retour contre le Bayern. Sauf que là, en fait, il y avait pas de. Oui, mais en fait, ils ont joué leur aller comme le match retour contre le Bayern.
Bah,
donc en fait, il y avait pas de but. Enfin, tu vois, il y avait rien à défendre. Là, en soi, il y avait pas d'avantage ni rien.
Par exemple, on verra mardi prochain. Mais moi, je m'attends pas à domicile à voir un Villarreal proposer beaucoup plus de choses que même dans la compo. Enfin, même si c'est un 4-4-2 assez classique, j'ai eu l'impression qu'Emery a mis des intentions très défensives dès le début.
Ouais.
Et après. Bon, tu joues à Liverpool, entre le milieu et l'attaque, il n'y a même pas besoin de parler toute la qualité technique qu'il y a devant. Enfin, moi, je trouve que c'était difficile, honnêtement, de proposer mieux avec l'effectif de Villarreal. Même si il a fait un parcours exceptionnel, il est jusqu'en demi-finale.
Mais il est toujours là.
Moi, je pense que si je suis Emery, j'aurais fait ce que j'appelle le même calcul d'épicier, c'est-à-dire je vais à Liverpool au match aller, j'essaye peut-être d'en prendre pas trop, et au retour à domicile, j'essaye de proposer plus de choses et de renverser
le score. Allez, du côté de Rotterdam, Vivien, c'est 3-2 là pour les Hollandais, hein, Sarah, c'est bien ça. Face aux Marseillais, en demi-finale de cette Ligue Europa Conférence,
Pour compléter ce que dit Vivien, c'est vrai que bon. Unai Emery, c'est un coach qui travaille très bien, qui est capable de se réadapter. Je pense qu'honnêtement, entre le fait de vouloir ressortir de derrière, ce qui fait sa qualité première aussi, un peu l'ADN un peu espagnol, et face à une équipe qui fait que du pressing tout terrain, et ben au final c'est le pressing tout terrain qui l'a emporté. Et comme t'as dit, les gens voient au niveau des statistiques qu'il y a pas beaucoup de frappes, il y a pas beaucoup de tirs, mais à un moment donné. Quand déjà dès le milieu de terrain, t'arrives pas à dépasser cette première ligne, c'est compliqué d'aller jusqu'à la surface, sachant qu'aussi ils ont des objectifs en tête qui sont assez revanchards de la saison moyenne qu'ils ont fait l'année dernière avec plein d'absents. Mais je pense que voilà, il est capable Unai Emery au match prochain de se réadapter et de voir où il a failli pour potentiellement proposer un match de qualité. Et après, le parallèle que tu fais avec le match de mardi entre City et Real,
c'est des équipes qui, quand même.
Oui, mais c'est des équipes qui potentiellement sont du même niveau, et on les attend souvent à ce stade de la compétition. Villarreal, c'est une surprise, mais voilà, on sait jamais de quoi est fait le foot, mais ça reste un très beau parcours jusque là. Mais hier, comme je l'ai dit au tout début, il y avait tout simplement une équipe plus forte que l'autre, et faut pas avoir peur de le dire. Il y a des fois, il y a pas d'explication. Faut pas chercher midi à 14h pour dire ce qui s'est passé.
Allez, Boula, on t'écoute. Liverpool, de Jürgen Klopp.
Moi, je crois qu'à Unai Emery, j'ai pas vu le match de Liverpool.
Ouais.
Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est un bon coach qui dispose pas du même effectif que Liverpool. Maintenant, la qualité du coach de Unai Emery, il propose toujours un maximum de jeux. Il a une expérience des Coupes d'Europe, il a une expérience du football. Vivian, quand il dit il n'a pas assez joué au ballon, c'est très dur de jouer au ballon contre Liverpool avec les qualités intrinsèques des joueurs qui en face. Et il y a un truc que je souligne de cette histoire de Liverpool. Je pense qu'il y a une cohérence de travail. Et il y a un chef, il y a un taulier, il y a un club qui est mythique comme Liverpool. Ils ont trouvé l'entraîneur qui va avec les résultats. Quand je vois que Mané propose au coach et au capitaine de décaler les entraînements par rapport au Ramadan, humainement, il y a Klopp, il nous sort quelque chose de très humain au niveau religieux par rapport à, je dis religieux parce que c'est quand même, ils sont en période de Ramadan.
Ouais.
Et Mané, je trouve ça extraordinaire que Klopp a décalé les entraînements.
Ouais.
Avec l'accord du capitaine et du coach,
ouais,
pour qu'ils aient un meilleur rendement physique.
Bah oui, effectivement.
Alors, Vivien.
Bah, Klopp, moi, c'est le type d'entraîneur que j'aime beaucoup.
On a vu pas mal d'articles sur ça, ouais.
Entraîneur du peuple.
Ouais. Bah, voilà, c'est des entraîneurs très humains, très, très proches de leurs joueurs qui ont des relations presque même de père-fils, ce serait un grand mot de dire ça, mais je trouve, enfin, moi, c'est le type de coaching que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des entraîneurs qui sont capables de faire vivre une belle expérience à leurs joueurs. Et souvent, que ce soit Klopp, Ancelotti, on entend rarement un joueur qui a joué pour eux en dire du mal. Oui, c'est peut-être ça aussi la clé de leur succès.
Non, ce qui est bien, c'est qu'il sort du domaine football, mais il met de l'humain, ouais, de l'humain. Et c'est ça, et c'est ça qui est extraordinaire avec un personnage comme Klopp. Et puis tu le vois, il a repris Liverpool. Liverpool, ça fonctionne et c'est fluide. Je pense que les exemples du PSG ou des exemples de pas mal de clubs ou de Manchester United, c'est pas des clubs qui sont gérés par des vrais managers généraux. Et je trouve que voilà, Klopp en fait partie des grands managers généraux. Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait avec Liverpool.
Ouais, Abdel,
malgré
on poursuit.
La qualité du coach Unai Emery malgré de cette petite équipe Villarreal qui arrive en demi-finale, je trouve que c'est
une grande
équipe.
Ouais,
c'est une extraordinaire.
Quand même, demi-finaliste, c'est pas rien.
Pour le moment, vainqueur de la Ligue Europa l'année dernière. Et enfin, je suis désolée, mais sur l'ensemble de la Ligue des Champions. Ouais, mais bon,
une petite équipe, c'était un peu méchant.
Allez, Sarah, on néglige quoi, ces clubs-là?
Ouais, et puis forcé de constater que là ils ont quand même fait
une c'est bien ce qu'ils font. Faut à un moment donné être réaliste.
Ils ont un plus gros palmarès que le PSG en Coupe d'Europe par exemple. Pourquoi est-ce qu'on peut pas comparer?
Il y a une histoire à Villarreal. Le problème c'est que Paris, ils ont pas fait encore leur histoire. Faut dire ce qui est.
Ça fait sourire. Bon, on a été rejoint par
c'est pour ça que
la
petite équipe, je trouvais ça dur parce que c'est un club qui est en demi-finale de Ligue des Champions, qui a gagné la Ligue Europa. Combien de clubs français peuvent dire ça?
Je suis d'accord avec toi, mais je réponds à la philosophie du football parisien.
Il y a des trucs qu'il faut savoir. Enfin, nous, la philosophie du football parisien.
Mais on n'a pas parlé du football parisien.
Non, mais le football, c'est. Non, mais d'accord, mais je reviens à Klopp. Lui, fait un travail de vraiment de gestion. Il fait un travail de manager général. Et il n'y a pas à Paris. Là, je te réponds ça.
Ouais.
Mais moi, j'avais pas de questions.
Ouais. J'avais pas de questions, Sarah. Abdel, peut-être.
Ouais, non.
On relance avec l'équipe.
Après, c'est vrai que, outre les joueurs qui sont dans l'équipe de Villarreal, qui sont peut-être un peu moins qualitatifs et encore, le fait d'avoir quelqu'un qui drive tout ça en la personne de Klopp, c'est vraiment important. Et c'est surtout, des fois, tu peux le faire sur une, deux années, mais là, ça fait quoi? Ça fait six ans qu'il le. Ouais. Qu'il le fait, et quand tu arrives toujours à te régénérer, et ben ça veut dire que ton discours il passe bien, et après ça passe aussi, comme le dit Boula, par une écoute de tes joueurs, des besoins qu'ils ont, et je trouve que c'est important. Après, sans comparer, mais hier, voilà, quand t'es bien rodé comme ça, il faut peut-être moins de temps à Klopp pour analyser les difficultés de l'adversaire que Emery doit met de temps à le faire, parce que il est peut-être pas habitué aussi à ce niveau-là de compétition, parce que oui, on le répète, c'est vrai qu'il a gagné de l'Europa League beaucoup de fois, mais la Ligue des Champions, c'est un autre niveau, et des fois quand c'est la première fois que tu goûtes, et ben tu mets plus de temps à t'adapter, mais ça, c'est pas un manque de respect, c'est une réalité, Et je pense que la semaine prochaine, il proposera autre chose.
Ouais, Sarah.
Moi, si je peux
alors,
juste.
Alors, poursuivre avec Sarah, vas-y.
Si je peux juste revenir sur Liverpool, ce qui m'impressionne vraiment, c'est le fait de répéter les performances chaque semaine. Là, ils sont en course pour le titre en première ligue avec City. L'intensité, enfin, en fait, l'intensité, j'ai l'impression que l'intensité ne baisse jamais.
Tout le monde est concerné aussi. Hein.
Oui, bien sûr, tout le monde est concerné. Pour revenir sur ce que disait Boula. Par rapport au staff, etc. Les recrues sont toujours les bonnes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas de, il y a pas vraiment de faille dans cette équipe. Et enfin voilà,
c'est vraiment du football.
Non mais on parle
faut
de.
Il faut appeler un chat un chat.
Ouais,
en
football. On va revenir au football. Allez Abdel, avant d'accueillir notre invité là.
Ouais non, je suis sur. C'est vrai que sur le recrutement, la dernière fois on avait même pas pu en parler, mais Edward qui s'occupe du recrutement, il expliquait justement que. Ils allaient chercher des joueurs pour leur laisser le temps. Des fois, c'est pas à des prix exorbitants, mais on leur laisse le temps de s'adapter à l'environnement du club. Ils disaient que la seule erreur, entre guillemets, c'était peut-être Naby Keita qu'ils avaient payé un prix cher et comme il s'est blessé, mais au final, c'est même pas une erreur parce qu'il rentre totalement dans les plans et dans la rotation. Donc voilà, faut aller chercher intelligemment. Ils sont capables de le faire. Et on sait très bien qu'une saison, ça se gagne pas avec 11 ou 14 joueurs et qu'il faut quelque chose de plus profond quand on voit Origi.
Intéressant, Abdel.
On voit qu'Origi rentre hier, qui a participé à des campagnes, qui est notamment celle où ils ont gagné récemment. C'est-à-dire que tout le monde est concerné, tout le monde est dedans, même ceux qui ont très peu de temps de jeu, voire qui jouent pas. Et ça, c'est un rôle vraiment de manager et non d'entraîneur que Klopp sait très bien faire.
Ouais, super. Dommage que, justement. Oula, on termine.
C'est dommage qu'un joueur comme Nabil Fekir.
Ouais. T'aimes bien Nabil Fekir.
Oui, il a été sollicité par Liverpool.
Bon joueur.
Et je pense qu'il y a eu un problème sur la négociation au niveau des commissions. Je pense que Liverpool, qui est une institut, et quand ils voient des histoires comme ça, ben, c'est le fait que Nabil n'a pas pu aller à Liverpool. Et comme il y avait une histoire de commission, ils n'aiment pas toutes ces histoires à travers un dossier. Et comme ils veulent que le dossier soit propre, et bon, Bernays a fait capoter le dossier.
Merci, Boula et aussi toute l'équipe. Allez, on va s'attarder cette fois-ci sur l'invité de la soirée.
Timesport. The special one, the special one, the special one.
Est heureux, tout comme Sarah, même Boula aussi. Eh oui, Boula, ça va le faire replonger.
Est-ce qu'il pourra renégocier nos contrats chez Time Sport?
Ah, bah ouais, Boula, il est là. Boula, c'est un agent. Boula, c'est un agent. Mais nous, on accueille François Niam aussi, ancien basketteur et agent sportif. Et aussi, on peut le retrouver chez nos confrères de Canal Plus Afrique, justement, lors de matchs du championnat nord-américain de basketball. Mais aussi, on aimerait le retrouver sur nos petits écrans, pourquoi pas, pour Paris 2024, avec nos confrères de France Télévisions. Voilà. Moi, je suis pas agent, mais voilà, on me dit, il est assez pertinent, Bilal, le gars que vous recevez ce soir. On va voir, mettez le feu avec lui, parce que justement, Vivien, il n'a pas peur. Yannis, on ne sait pas, il se promène dans les couloirs, là. On ne sait plus où il est, mais en tout cas, comment ça va, François?
Ça va très bien, Bilal. Merci de me recevoir. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir à tous nos auditeurs.
Ouais.
Vous avez bien mis le feu, là, sur le plateau. Je suis échauffé.
Non, mais c'est assez tranquille, là, justement. On a Mamadou qui passe le bonsoir, justement, à François.
Salut, Mamadou.
Et justement, on aimerait s'attarder, François, sur, un peu ce climat qui règne au sein même de la NBA avec nos franchises, mais aussi comment ça se passe aujourd'hui la NBA. Est-ce que c'était mieux avant? On a Boula, on a un peu des anciens ici qui nous disent c'était mieux avant à l'époque des grands champions, et on a peut-être aussi d'autres comme Abdel ou encore Yanis, Vivien qui nous dit aujourd'hui ça va dans tous les sens quoi.
Moi je suis entre les deux, j'ai le cul entre deux chaises pour donner mon langage. J'ai 41 ans, bientôt 42, donc j'ai connu un peu l'époque de Jordan, Magic et consorts.
Ouais.
Et j'ai vécu bien sûr Kobe, LeBron et la nouvelle génération, donc j'arrive un peu à voir les disparités. J'ai envie de dire, pour ceux qui se demandent si c'était mieux avant, regardez le fameux docu-série sur Netflix qui est sorti l'an dernier, il y a deux ans, pardon, durant la pandémie, sur Michael Jordan. Ça mettra les pendules à l'heure.
Ouais,
je pense qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le GOAT, qui est le greatest of all time.
C'est ça.
LeBron James, Michael Jordan, Kobe. Bon, voilà, chacun va là où il veut. Moi, je pense que je compare souvent le basket à la boxe. Les finales NBA, c'est comme un combat de boxe. Quand on est en finale et qu'on n'a pas perdu comme Michael Jordan, 6 victoires en 6 finales, 6 titres de MVP, je pense que la messe est dite.
Vivien, avec Sarah, peut-être une réaction. Sarah, justement, il a tout dit. Allez, Vivien, on va laisser aussi Vivien.
Si on rebondit un peu sur ça, il y avait autre chose qui a fait très polémique, c'était la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps.
Ouais.
Et par exemple, on a vu que notre Français Tony Parker n'était pas dans la liste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis un peu partagé. Je vais être très honnête. Je pense qu'il y a certainement un peu un côté politique à l'américaine où ils ont envie de favoriser leurs joueurs américains. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur Pau Gasol, sur Tony Parker, et puis même des Américains qui n'y sont pas, comme je pense Tracy McGrady et pourquoi pas Kyrie Irving. Moi, mon petit chouchou là-dedans, c'est Kyrie Irving. Alors, il a fait parler beaucoup de lui. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Il a refusé de se vacciner, donc pendant longtemps, il n'a pas pu être éligible pour jouer. Là dernièrement, il a joué quand même en faisant le Ramadan. Il a été clear pour jouer. Donc finalement, à New York, à domicile.
C'est allé assez vite, par contre.
C'est allé assez vite. Malheureusement, je pense que manque de cohésion dans cette équipe des Nets. Ils n'ont pas les stars. On va dire, n'ont pas eu l'occasion de vraiment jouer ensemble quand Kevin Durant était blessé, quand Irving ne jouait pas. Maintenant, voilà. Je pense que pour revenir aux 75, il y a, hormis ceux que je ne connais vraiment pas des années 60 ou 70, je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs. On pourrait se dire effectivement Tony Parker à la place d'un Damien Lillard, moi, je pense. Je pense qu'il, lui, mériterait peut-être de passer à la trappe. Voilà.
Et Tariq Abdul-Wahab, il y est
bon, voilà, il nous sort à chaque fois quand ça parle d'NBA, à chaque fois.
Il n'y est pas, malheureusement. Ouais. C'est quelqu'un que je respecte énormément,
merci,
justement.
Voilà. C'est pour ça que je le mentionne tout le temps, parce que
c'est vrai. Il aime beaucoup.
Des joueurs connus.
Qui t'ont marqué, vous, là?
De France et dans la banlieue.
Bah, c'est un truc que je t'ai marqué aussi.
Je veux bien. Et quand tu me dis Tony Parker, t'as deux images différentes, tu vois.
Alors,
après, Tony, ça reste quand même quelqu'un.
Ouais, quand même, ça va, il a marqué.
Je connais pas. Mais je sais ce que Tariq Al-Web.
Et Moussanko, d'ailleurs.
Ouais, aussi.
Bah, c'est sûr que si on fait le trait à la relation parisienne, la banlieue parisienne, Tariq Abdul-Wahab, déjà, c'est le premier joueur français à être allé en NBA de manière directe. Il y avait eu un français à l'époque, s'appelait, je crois, Jean Lefebvre, ou je sais plus comment il s'appelait, qui a été drafté, mais qui n'avait jamais joué. Et Tariq Abdul-Wahab, lui, il a vraiment joué, il a vraiment ouvert la porte, justement, pour
ces
joueurs français qui sont arrivés par la suite, quoi.
Ouais.
Donc,
justement.
Gros respect à Tariq.
Je suis content que quelqu'un comme toi,
nous, on est très contents.
Au niveau Beurre FM, ici, viens. Au moins, les consultants, tu maîtrises ton sujet. Tu vois, c'est pas donné à.
Ouais. Mais voilà, mais maîtrise ton sujet. Lui, il maîtrise déjà son sujet.
Maîtrise le sien,
s'il te plaît.
C'est vrai, on a eu des experts. Limite, on faisait la ligne à 2 et 3 points. Et ça n'avait même pas.
Mais non, tu aimes bien les
clashers. On a eu un expert et prétendait envoyer des gens aux États-Unis. Ils connaissaient même pas une conférence NCL.
Ouais, quand même. C'est pas pareil.
Tu devrais être content, Bilal, pour ton émission, d'avoir quelqu'un comme.
Mais c'est moi qui l'invite. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais
François. Bien sûr, mais il y a du level. Tu nous prépares les contrats, lui nous prépare le parquet nord-américain. Sarah, elle est toujours là pour nous diffuser un peu toutes les infos concernant la planète sport. Et Abdel, justement, peut-être il a une réaction, tout non, comme Mourad, non
plus. Allez, vas-y, Abdel. On parle beaucoup de la NBA, mais en France aussi, il y a une ligue qui est là, peut-être pas aussi mise en avant. Et je voulais savoir ce que tu pensais du niveau de cette ligue et comment elle pourrait encore plus se développer pour que les Français, même si on sait qu'il y a le rêve américain et autres, puissent aussi s'intéresser au sport qui est fait dans ce pays, dans notre pays.
Bah, je pense que c'est une super question. Effectivement, quand on regarde les Français en NBA, je crois que alors maintenant plus c'est les Canadiens qui sont la deuxième nation la plus représentée, mais jusqu'à il y a très peu de temps c'était les Français. Et là, je crois qu'on doit être la troisième nation la plus représentée avec une douzaine, treizaine de joueurs en NBA. Enfin, je sais pas si ça se dit treizaine, pardonnez-moi, mais en tout cas une douzaine de joueurs NBA. Donc il y a un vrai vivier en France, il y a une vraie culture basket. On voit qu'ils sont arrivés en finale des Jeux Olympiques l'été passé en 2021, ils perdent face aux États-Unis. On n'a pas su malheureusement surfer sur la vague déjà il y a 20 ans parce qu'il avait déjà fait la même opération en 2000 à Sydney. Et je pense que peut-être ce qui manque à ce basket français,
alors
c'est si on veut mon avis, cet esprit un peu vieux jeu, la bureaucratie de la Fédération française de basket et des instances qui sont un petit peu ancrées dans leur fauteuil, pardon, et qui ont du mal à changer les choses. Il y a un renouveau de plus en plus qui arrive. D'anciens joueurs deviennent agents de joueurs, d'anciens joueurs deviennent general manager. Donc il y a de plus en plus, on va dire, de chair fraîche qui arrive, des nouvelles idées. Les joueurs aujourd'hui, les jeunes joueurs, ils ont tous accès aux réseaux sociaux, à Internet et tout ça. Donc ils ont beaucoup plus de talent qu'on a pu en avoir à notre époque. Et ils ont une facilité, un accès aux choses. Donc on a du Killian Hayes qui arrive, on a du Victor Wembanyama là qui a à Nanterre, le prodige de 2020, 18 ans.
On en parlait,
on a eu Doumbouya de par le passé, on a eu Elikina. Donc de plus en plus, les joueurs français vont être draftés. Ça devient presque tous les ans un classique. Mais il va falloir maintenant rentabiliser, banquer là-dessus. Comment on garde ces joueurs-là aussi dans notre championnat? Comment on essaie de relever le championnat avec des sponsors? Pourquoi pas privatiser la ligue et essayer d'avoir un truc un peu plus solide? Et
alors justement, poursuivre.
Quand tu vois PSG qui a pris le rond, est-ce que tu penses que le Qatar peut prendre une équipe comme Lyon?
Il voulait, en tout cas. C'était dans les petits papiers à l'époque où Paris justement était en fusion avec le Valois. Ils ont voulu récupérer justement Qatar Sport Investment, qui a récupéré donc le PSG, le handball et le volley. Faire une entité multisport un peu comme le Bayern, FC Barcelone et tout ça.
Ouais, Barcelone aussi.
Avoir le basket. Malheureusement, pour des raisons, j'imagine un peu politiques, ça ne s'est pas fait.
C'est dommage.
Et puis le Valois, donc c'est qui est le club parisien, c'est soudé avec Boulogne.
Quand tu me dis c'est politique, quand je vois Jamel Bourras, qui est président du judo PSG, moi je suis pas un pro dans le basket. Quelle est la personne qui peut discuter avec les Qataris pour devenir président du basket PSG, pour faire un gros projet, parce qu'on a quand même des amateurs de basket.
C'est le problème, c'est que le club parisien, bon là, le club Paris Basket a été racheté par un Américain, qui lui vient de la NBA, Khan, qui a été à l'époque avec les Timberwolves de Minnesota, donc qui est venu avec ses actionnaires américains racheter le club de Paris. Mais jusqu'ici, c'était le club de Levallois, qui était donc le Paris Levallois, qui était dans le plus haut de l'élite, on va dire. Et pour le coup, à l'époque, je pense qu'il y a eu peut-être des mésententes avec le maire de la ville à l'époque.
Peut-être
ça,
aussi.
On est encore très gymnase municipaux.
On poursuit avec Abdel.
Tu pourrais nous dire un mot.
Et aussi Vivien et Mourad qui nous appellent.
Le rôle d'agent, parce que dans le basket, on connaît un petit peu, dans le football, encore un petit peu.
Ouais.
Est-ce que dans le basket, tu pourrais nous en parler un petit peu, nous dire un petit mot sur ça?
Bah écoute, c'est une bonne question. Il y a deux types d'agents, on va dire. Il y a l'agent sur la zone FIBA, donc qui est commissionné à 10%, on va dire, de tradition sur les contrats des joueurs, et qui a priori peut contrôler un joueur jusqu'à 2 ans, en tout cas légalement, c'est un contrat de 2 ans qu'on peut renouveler ou non. En NBA, c'est tout autre chose. Effectivement, il y a beaucoup plus d'argent, les sommes sont mirobolantes certaines fois. Par contre, on est commissionné qu'à 4% en tant qu'agent. C'est le plafond régulé par la NBA. À l'inverse de l'Europe, où les agents en général vont placer des joueurs dans des clubs et se faire commissionner par le club et non pas par le joueur, en NBA c'est interdit. C'est le joueur qui t'embauche, qui doit donc te rémunérer, et en gros le joueur collecte son argent. Il doit se démerder pour se loger, pour sa voiture et pour payer son agent.
C'est incroyable.
Là, de tradition, en Europe ou dans le reste du monde, c'est un peu l'inverse.
Non, mais ils vont venir au foot. Parce que c'est une bonne. C'est une bonne.
On verra bien. Boula. Ouais, c'est une bonne chose pour toi peut-être. Mais pour d'autres, non. J'ai la vérité, Boula. On verra bien.
Clubs,
Sarah et Vivien. Bon, on va voir, Boula.
Bah, ils ont baissé à 3.
Alors, moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur. Enfin, savoir qui est ton MVP de la saison.
Ouais. On a pas mal de questions aussi sur Internet.
Alors, tu sais,
moi
j'aime à dire que je suis le seul noir au monde avec une tête d'arabe et un nom de français. Donc là, j'ai la tête. Mon sang noir, il est du Cameroun. Donc forcément, je pense que je suis pas forcément objectif. Il y a un Camerounais qui s'appelle Joel Embiid à l'heure actuelle, qui est en train de tout casser du côté des Sixers.
Il y a décidé de pas d'accord. Ouais.
Et je pense que ça va être lui le MVP. Maintenant, si tu me demandes moi, mon MVP, mon chouchou. Alors je pense que j'ai vraiment été bluffé par Ja Morant de Memphis Grizzlies cette année.
Ça fait plaisir là au studio.
Et si c'est moi qui commence, je le donne à Ja Morant.
Ouais, justement. Mais viens, on poursuit. Justement, on a Mourad avec
Alors,
qui
on
parlait de Joel Embiid.
Les auditeurs ne savent pas, mais t'as été agent de Luka Mbabute et Joel Embiid. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et aussi pourquoi tu n'es plus l'agent de Joel Embiid?
Alors tu vois, j'ai un peu de barbe blanche et j'ai perdu mes cheveux. Oui. C'est pas l'hérédité, ça vient du milieu d'agent justement, qui est un milieu très 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 complexe. À partir du moment où il y a des gros sous, il y a des gros enjeux, il y a des grosses contraintes et il y a des gros problèmes. Ça vient avec. Moi je deviens agent en 2008 quand Lumba Mouté justement me dit qu'il joue à UCL à l'époque, me dit écoute, moi je pense que je suis arrivé au terme universitaire, là je peux pas apprendre plus. À la fin de l'année, il me dit ça en septembre 2007, il me dit à la fin de l'année, je mets mon nom à la draft. Prépare-toi parce que si je suis pas drafté, je veux que tu t'occupes de moi en Europe. De là, je passe mes diplômes d'agent, je me prépare. Dieu merci, il a été drafté, donc je commence à me faire les dents un petit peu avec lui et son équipe d'agents de l'époque. Sur la NBA, j'apprends les rouages, tout ça. Et de là, il me confie un peu toutes ses activités hors États-Unis. Donc au Cameroun, on développe des camps, en Afrique, au Congo, au Zimbabwe, un
vraiment
peu partout.
Intéressant.
Et de là, sur ces plateformes qu'on met en place de détection, sortent Joël Embiid, Landry Noko, Pascal Siakam, on va dire toute la génération de joueurs camerounais qui arrivent après. Et donc Joël Embiid fait partie de ces joueurs dont j'ai la chance de m'occuper, en tout cas jusqu'à ce qu'il arrive en NBA et sur son premier contrat. Malheureusement, après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de sa décision. Chacun joueur blessé, il a été blessé les deux premières années de sa carrière à cause de sa blessure au pied. Ben, ça devient un petit problème parce que le moral dans les chaussettes, parce que perméable au discours du vestiaire, il y a toujours des coéquipiers qui peuvent rentrer dans la tête, des agents concurrents qui vont lui dire,
ça existe aussi,
tu sais, ton agent est peut-être pas à la hauteur, t'aurais dû être guéri depuis, c'est pas normal, patati patata. Et je pense que toute cette dynamique a fait qu'au bout d'un moment, il s'est dit, j'ai besoin d'un peu de sang neuf, de tourner, prendre une page blanche et de recommencer quelque chose. Donc c'est à ce moment où je le perds. Par contre, ça fait mal.
Ouais, ça fait très très mal. Vivien et Abdel, rapidement, allez avant la dernière pause.
Sur le sujet des agents, contrairement au foot, dans le basket, il y a une agence qui s'appelle Comsport qui a à peu près 90-95% des joueurs. Ouais. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est une bonne chose qu'une agence ait à peu près le monopole comme ça, ou est-ce que ça peut être un problème justement? Comment est-ce que tu vois ça?
Pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, non. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que, en tout cas, Comsport, qui est une agence française très respectée et qui fait du bon boulot,
qui est dans le top 10 mondial,
mais le problème, c'est qu'après,
dans le top 10 mondial, c'est parce que ils génèrent de l'oseille et médiatiquement ils sont comme ça. Mais tu peux pas à un moment donné avoir 95% du marché, parce que individuellement, comment tu gères les joueurs? Parce
que c'est exactement
c'est
pas, ça.
C'est là où je voulais en venir, c'est que le problème, c'est que quand t'es une structure à taille humaine, j'ai envie de dire, parce que les structures françaises par rapport aux structures américaines, c'est incomparable.
Ouais.
On a David et Goliath. C'est comme si tu regardes AB Productions et tu regardes Netflix. Voilà, deux choses différentes, différents.
Mais demain, s'ils te proposent de les rejoindre, est-ce que tu pourrais t'intéresser?
Non, comme ça. J'aurais déjà dit non à l'époque.
Et mais en 2022,
Abdel, je continuerai de leur dire.
Peut-être Abdel, rapide Abdel.
Ouais, non.
Allez, la dernière pause. Avec Giovanni. Abdel, on écoute Abdel.
De talent. Je parle du continent africain où on a l'impression qu'ils arrivent. Enfin, ils sortent au fur et à mesure, mais c'est peut-être pas assez bien développé là-bas. Est-ce qu'il y a des académies là-bas qui travaillent, ou est-ce que toi-même développer des choses là-bas sur le continent, ça pourrait t'intéresser, ou t'as déjà été sollicité pour ça peut-être?
Là tu mets le doigt exactement sur mon parcours. Moi je suis né et grandi à Paris, par contre j'ai dit mes origines camerounaises m'ont amené beaucoup en Afrique, et dire que nul n'est prophète en son pays. Moi, je me suis exporté en fait pour, entre guillemets, y arriver. C'est comme ça justement que j'ai Luc, que j'ai Joël Embiid, que j'ai le petit frère de Luc, Roger Moutet, que j'ai Jonathan Tchamoua Tchatchoua, que j'ai tout mon contingent de Lamine Diané sénégalais, mon contingent de joueurs africains, parce que j'ai décidé de sortir de France, qui était un territoire déjà, on va dire, chassé, où tout le monde se faisait la guerre. Moi, je me suis dit, j'ai des possibilités en Afrique, je vais aller chercher ce talent qui est là-bas et qui ne demande que ça.
Allez, reste avec nous, François Niam, notre invité. Ça fait plaisir aux auditeurs de Beurre FM. Je tiens à le souligner, François, vraiment. Il y en a qui en apprennent pas mal ce soir, toujours 3-2 entre Feyenoord et l'Olympique de Marseille, dans cette première manche de la demi-finale de cette Ligue Europa Conférence. Vous restez avec nous, on reviendra aussi avec Djamel Belmadi et l'Algérie. À de suite.
7-0 à la mi-temps, je crois qu'on est pas tiré pour un score de basket. Alors laissez-moi vous dire une chose. Vous commencez vraiment?
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, toujours en live jusqu'à 23h, 22h40 avec Sarah, notre consultante, Abdel, Boula, Vivien et François Niam qui nous fait justement ce privilège de nous assister durant cette émission, qui est Time Sport, ancien basketteur et agent sportif et aussi consultant NBA chez nos confrères de Canal Plus Afrique, justement. On pourra le retrouver ce soir, c'est bien ça, François?
C'est ça, hein, à une heure du matin, sur le match 6 qui opposera les Sixers à Toronto.
Le rendez-vous est pris, justement, le 01-53-48-3000. On va faire réagir, ça fait un petit moment qu'il nous attend, c'est Mourad, lui aussi il aime beaucoup la NBA. Bonsoir Mourad. Alors Mourad, comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très très bien Mourad, hein. On en parlait de basket avec Boula, justement avec les anciennes gloires du basketball, avec Sarah ou encore Abdel et Vivien, mais surtout avec Monsieur Niam, François, qui est avec nous. Peut-être une réaction Mourad?
Écoutez, non, moi j'ai vu ses paroles, tout ce qu'il a dit c'était bien.
Ouais.
J'avais une question à lui poser, à François.
Alors
qu'est-ce qu'il pense du projet que Adam Silver voudrait mettre en place en Europe, créer une NBA européenne?
Bah, Je pense que d'ailleurs c'est dans les bonsoir Mourad, désolé de pas t'avoir salué déjà, c'est dans les les petits papiers depuis un moment, ils en parlent. Ça reste encore à définir sur les contours de est-ce qu'on rajoute juste une ou deux équipes comme il avait fait avec le Canada, et là ils sont en train aussi de voir avec le Mexique à Mexico City peut-être, mais c'est vrai que ça pourrait aider à globaliser. Ils sont dans une logique de globaliser le basket NBA, la marque NBA de toute façon, l'exporter un peu partout sur la planète. Donc moi je pense que ça pourrait être une bonne chose. La NBA étant une ligue fermée avec des franchises, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente comme c'est le cas dans tous les championnats classiques sur la planète. Donc voilà, ce qu'il faut c'est avoir une ou deux équipes qui ont les moyens d'avoir un roster solide. Je pense que ça serait surtout en Europe de l'Ouest pour commencer, si ça se fait, parce qu'il y a les déplacements à prendre en compte aussi. Quand on voyage et qu'on va à Los Angeles depuis Paris, c'est 12 heures de vol et 9 heures de décalage horaire. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération, je pense, et bien réfléchir avant de le mettre en place. Mais en tout cas, si ça se fait, je pense que c'est une super idée.
Moi, on poursuit. Une autre réaction, peut-être, cher auditeur. Alors,
Alors, du coup, comme c'est les playoffs en ce moment, j'ai entendu dire que le MVP, ça pourrait être Joel Embiid.
Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Ouais.
Ça aurait pu être aussi Nikola Jokic, mais à mon avis, je pense pas qu'il le sera. Une question très pertinente.
Alors,
qu'est-ce que tu penses de Boston Celtics cette saison et surtout pendant les playoffs là ?
Magnifique. Franchement, le départ qu'ils font en début de saison avec les galères qu'ils enchaînent, le manque de cohésion, les rumeurs sur le fait qu'il faudrait peut-être séparer Jaylen Brown et Jadon Tatum en libérer un. Ime Udoka qui est rookie coach et qui arrive pour la première fois en tant qu'head coach à reprendre une équipe. C'était vraiment mal embarqué et il y avait vraiment, vraiment des grosses interrogations. Et le turnover qu'ils ont fait, la turnaround qu'ils ont fait à mi-saison, enchaîner les victoires, surtout après le All-Star Game, et la démonstration de force qu'ils ont fait face aux Nets, franchement, je suis obligé de m'incliner. Je ne pensais pas qu'ils allaient mettre 4-0 aux Nets. Je l'ai même d'ailleurs dit sur le plateau de Canal+, il y a quelques jours. Je pensais que les Nets allaient revenir à deux partout sur les deux matchs à Brooklyn. Force est de constater que je me suis planté et surtout que les Celtics sont très très forts. Chapeau à Ime Udoka, chapeau à cette cohésion de groupe qu'il a réussi à créer. Et les deux stars qu'on pensait devoir se séparer un jour, je pense qu'il faut faire avec eux, faut construire autour d'eux. Ils sont compatibles, Jaylen Brown et Tatum, mais c'est vraiment vraiment beau à voir jouer en tout cas.
Merci Mourad, vous restez avec nous. Mourad,
Bilal a besoin d'un consultant au basket, je pense qu'il peut t'inviter.
Mais on l'avait déjà invité justement, parce que même les auditeurs, les auditrices de Bord FM sont assez.
C'est beau les échanges.
Mais bien sûr, ça c'est des fins connaisseurs. On va laisser justement. Il a une réaction, c'est Vivien. Mourad, il reste en ligne. Giovanni va prendre son adresse pour lui envoyer justement le bouquin de ce soir, Désarmer la violence, aux éditions Solar. On est toujours avec François Niam. Une réaction, c'était, oui, Kevin Durant out et Harden peut-être prétendant concernant quel destin justement pour cette conférence à l'Est. Ouais.
Alors moi je pense qu'à l'Est c'est la conférence la plus ouverte. Il y a quatre équipes qui sont vraiment capables d'aller chercher le titre. Je pense que les Bucks ils peuvent être tout simplement favoris pour leur propre succession.
Ouais.
Forcément, il faut compter avec Miami Heat. Pour moi, c'était mes favoris en début de saison à l'Est avec les Nets.
Moi,
je me suis viandé sur les Nets, mais je pense qu'on est encore bon sur le Heat de Miami. Les Boston Celtics, cette espèce de poil à gratter dont que personne n'avait vu venir, qui aujourd'hui sont clairement, clairement prétendants. Alors, de toute façon, là, on va voir l'affiche Bucks Celtics. Donc, il y en a un qui va tomber. Et parmi ces deux-là, je pense que les deux équipes auraient pu prétendre aller au bout. Je suis moins convaincu sur les Sixers.
Ouais.
Si je peux me permettre d'envoyer un petit pari, un petit pronostic.
Allez, on y va.
Je pense que les Raptors vont les prendre ce soir à domicile.
Ah ben voilà.
Parce que Matisse Thybul, qui est leur meilleur défenseur, ne peut pas voyager au Canada. Et je pense que ça va leur faire du mal. Et le retour de Scottie Burns.
On peut le jouer au côté.
On voit bien. Ouais.
Ah,
on voit bien. Non. On n'a pas le droit, justement. Justement, on n'a pas le droit. Et Boula, tu peux pas comme ça le mentionner directement sur l'antenne. Oui, ça nous fait. Il le tease bien, hein, le maître de ce soir. Vraiment.
Hors basket, pour nos auditeurs, est-ce qu'il peut nous raconter une anecdote, un moment un peu sympa avec peut-être Joel Embiid, vraiment en dehors du basket.
Allez.
Un bon moment dans sa période d'agent avec lui.
Alors écoute, ce qui me vient à la tête tout de suite, parce que même moi, ça m'a un peu pris à contre-pied. Joël, c'est un gamin qui commence le basket en janvier 2011. Et si tu te rends compte, en juin 2014, il était projeté numéro 1 de la draft. À 10 jours de la draft, il se pète le pied. Donc, si c'est pas pour le problème de blessure, il allait être numéro un. Donc, ça allait très très vite. Et de voir un gamin qu'on sort du Cameroun, ouais, qui ne connaissait rien au basket, qui sortait du volley, qui a progressé aussi vite, et trois ans après, on a allumé ESPN, toutes les unes de magazines, il les fait. Et surtout, un soir, on est à Emerson à Los Angeles, ouais, et là, il y a Drake qui arrive.
Ah ouais,
Drake,
carrément.
Le rappeur Drake, le quoi. C'est pas n'importe qui vient le checker, ah bah là, il demande son numéro, mais comme un fan.
Et Abdel, ouais. Ouais, j'ai ouais, truc de malade, quoi.
Qui demande ton numéro. Ça, pour moi, c'était.
Ah, c'est incroyable. Cool. On nous pose des questions aussi sur les réseaux sociaux, notamment pour vous, François Niam, notre invité ce soir sur Beurre FM. Golden State de Stephen Curry, vous en pensez quoi?
Pour moi, ouais, c'est l'équipe favorite aujourd'hui à l'Ouest. Je pense qu'avec les Suns, de toute façon, en début de saison, c'est les deux équipes que j'avais annoncées. Là, maintenant, les Suns ont vécu un petit coup dur. Il y a une blessure de Devin Booker. On dit 3-4 semaines. Je peux penser un peu plus. Il s'est quand même blessé l'ischio jambier. C'est un muscle assez délicat. Quand on se le pète, voilà, ils sont un peu en train de galérer face aux Pelicans, même s'ils mènent 3-2. Je pense qu'aujourd'hui, les Warriors sont en pleine bourre. Les gens les voyaient moins forts parce qu'en fin de saison, ils étaient un peu en roue libre. Mais on a un Steph Curry en pleine bourre. On a un Jordan Poole qui aurait dû être MIP, selon moi.
Ouais.
On a Klay Thompson qui est revenu, Draymond Green, Wiggins qui joue, Gary Payton Jr. Enfin, il y a vraiment un firepower, comme on dit, chez les Warriors. Et surtout, une expérience de la gagne, une culture, une vraie identité de jeu et un super coaching. Donc, je pense que les Warriors sont les favoris à l'Ouest.
François Niam, qui reste avec nous.
Une question pour finir.
On n'aura plus le temps de parler d'Algérie. C'est sûr de poser la question? On n'aura plus le temps de parler d'Algérie.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est les jeunes de quartier aux États-Unis. Est-ce que c'est les problèmes qu'il y a ici, nous, en France? Est-ce que les éducateurs et les clubs, ils sont plus, qui réussissent dans le basket.
Alors, il y a un autre système, on va dire, qui est en place aux États-Unis, surtout dans les quartiers. C'est tout ce qu'on appelle le système AAU. AAU, c'est Amateur Athletic Union, je crois. Donc, c'est un petit peu comme des, pour faire court, c'est un peu comme des sélections régionales qui regroupent un peu les meilleurs joueurs d'une zone. Et c'est souvent, elles sont financées par des marques, soit Adidas, Nike ou Under Armour notamment, qui créent des petites ligues. Et souvent, ces grands frères de quartier sont un peu les coachs de ces équipes AAU et prennent les joueurs sous leur aile. Et les aide à évoluer, comme on a pu voir avec Zion Williamson, LaMelo Ball et tous ces joueurs.
François Niam, il nous reste à peu près 2 minutes. Allez, on va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission rapidement.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Sarah, qui est assez rapide à son habitude, justement. L'affaire Belmadi qui prend de l'ampleur. On ne comprend plus rien.
Est-ce que tu vas prendre un millefeuille, Sarah?
Ouais.
Alors, moi, tu vois, avant de venir, j'ai pris mon café, mon millefeuille.
Personne t'a embêté.
Je m'en voulais pas, je suis camerounais.
On accueille tout le monde. Justement,
c'est quoi ton avis, François Niam, sur cette polémique?
Mon avis, il est très simple. Quand tu sais que t'es en danger, c'est là où t'es pas en danger. Mais quand tu sais pas que t'es en danger, en fait, c'est là où t'es en danger. Tu vois?
Non, pas du tout. Jamel, il a pas un problème avec le peuple camerounais. Il a pas un problème avec le peuple africain. Ouais. Là, il parle d'une personne. Voilà, une personne qui s'est arrangée avec certains.
La personne, c'est qui? C'est l'arbitre.
L'arbitre. Question. Il parle de l'arbitre.
On va pas avancer des choses par le conditionnel.
Quand même. Voilà, Boula. On peut pas. Elle a raison, Sarah.
Connaissant un petit peu la preuve, c'est pas.
Est-ce qu'il y a eu des preuves?
Mais comment connaissant? Mais tu les as où, les preuves, toi?
Mais non. Les preuves, il y a plein de preuves qui les ont. Tu sais très bien.
Je vais
te donner un exemple. Ils ont mis un coup de balai à la CAF. Il y avait Aïssa Ayatou, il y avait le président de la fédération algérienne.
Oui.
Il y a eu des trucs qui ont été faits, même par rapport à la Coupe du Monde du Qatar. Je pense qu'il y a des trucs qui sont pas clairs dans le sport. Et Jamel, il parle au nom, en tant qu'entraîneur.
Merci.
Il se sent un petit peu humilié par le peuple algérien qu'on se fait voler dans l'arbitrage.
Alors
là,
ça,
il parle pas des.
Ça, on écoute Sarah Boula. Rapidement avec Abdel aussi.
Le sujet, c'était cette affaire. Le fait que l'affaire prenne de l'ampleur. Pour moi, c'est une très bonne chose. Si Belmadi a réussi à mettre un coup de pied dans la fourmilière, tant mieux, parce que quand il parle de ses problèmes d'arbitrage en Afrique, il parle pas uniquement de l'Algérie, il parle de l'arbitrage de manière générale.
Merci.
Ça fait des années qu'il s'en plaint, et ce n'est pas parce que l'Algérie a perdu là au Cameroun que l'Algérie pleure ou quoi. Ça fait vraiment des années qu'il en parle. Et ensuite, juste si je peux me permettre de revenir sur cette histoire de preuves, On les a pas, enfin factuellement on les a pas, on entend dire qu'il y a des preuves, on attend de les voir.
Bien sûr, Abdel, ouais, allez, on termine avec toi, Abdel.
Si c'est le service secret américain. Si
arrête, avec tes services secrets, arrête, non, mais non, tu peux pas. Boula, les informer, c'est demain matin avec Adil Farkan à 10h. Oui, Abdel, Abdel, rapide. Abdel, vas-y, laisse-le terminer. Vas-y, Abdel.
Si ça fait réagir, alors. C'est que c'est pas pour les bonnes raisons. Ce qu'il a dit, c'est une chose. C'est passé. Si on en parle 2-3 jours après, c'est une question de prétexte. Je pense que ce qui fait réagir, c'est qu'ils mettent un peu le point sur des choses qui sont réelles, comme ça a été dit. Et je pense que voilà, il faut pas abuser. Après, faut pas le nier. L'Algérie, beaucoup sont contents du fait qu'ils soient absent. Peut-être les Algériens parlent trop, il y a trop la bouche, il y a trop de trucs, mais à un moment donné, pour le sport, ça aurait été bien qu'ils viennent ici, même le style camerounais. Mais ça dérange, ou ça fait plaisir qu'ils y soient pas. Et à un moment, on va pas défendre, mais c'est aussi une réalité.
Grand merci, Abdel, Vivien, Boula, sans oublier Sarah, notre consultante, et notre invité, François Niam, d'avoir été avec nous. Voilà, Boula, vous le retrouverez peut-être demain avec Adil Farkan à 10h dans l'émission politique. Il a m'aurait parlé des services secrets américains. En tout cas, nous, on vous souhaite une belle soirée avec Vanessa, qui arrive à grands pas, 23h, 1h du matin. Et aussi, vous pouvez retrouver, justement, chez nos confrères de Canal Plus Afrique ce soir, le match à 1h du matin avec François. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça.
Merci de m'avoir reçu.
Mais merci, François. Un plaisir. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.